Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Renaud, je n'ose pas te demander comment tu vas aujourd'hui parce que je crois savoir que tu as eu une petite déconvenue. Bon, je crois rien de trop méchant, mais quelque chose qui t'a un petit peu agacé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le dire à nos auditeurs ?
Voilà, mais c'est sans importance. Allez, vas-y, parce que en fait, comme nous enregistrons en décalé par rapport à la sortie de diffusion de l'émission, aujourd'hui c'était le jour de la mise en place des passes pour le Hellfest, et donc pour la première fois depuis 12 ans, je vais rater puisque je n'étais pas bien placé dans la file d'attente. Voilà.
Eh oui, bon, bah écoute, tu m'envoies désolé, Renaud. Alors, ça illustre peut-être ce qui se passe en économie d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire que lorsque l'offre est très concurrentielle, eh bien, il y a une demande qui ne peut satisfaire tout le monde. Et c'est un petit peu ce dont on va parler dans l'émission. Alors, excuse-moi pour ce lien très distendu entre le contenu de l'émission et ce que tu vis.
Eh bien, pas du tout, Eric, parce qu'en fait, ce que tu dis est très intéressant, vraiment, vraiment. Je le cite souvent à mes étudiants. C'est que je trouve que le Hellfest, c'est un bon exemple, justement, de la question de l'inflation. Parce que effectivement, on est typiquement là dans un cas où on a une demande qui est très largement supérieure à l'offre. L'offre est de 40 000 passes 3 jours. Donc la demande est très largement supérieure à l'offre, et que nous apprend la théorie économique, lorsque la demande est très largement supérieure à l'offre, les prix devraient augmenter. Et donc la question qui se pose depuis des années aux promoteurs du Hellfest est la suivante: est-ce que, bien, pour faire face justement à ce mécontentement de toute une partie des gens qui acceptent de payer le prix, mais qui se retrouvent sur une file d'attente lorsqu'on met en place les places en vente à 13h un mardi, et qui finalement n'en ont pas, et qui ont une frustration légitime, parce qu'ils nous annoncent qu'ils étaient prêts à acheter au prix qu'on avait proposé et que finalement ils n'ont pas obtenu. Mmh. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mieux augmenter les prix ? Donc effectivement, c'est une réponse marchande au problème d'une demande supérieure à l'offre, mais évidemment qu'il y a des effets secondaires importants, qui est que vous sélectionnez sur le pouvoir d'achat des potentiels acheteurs. Donc en fait, vous feriez un Hellfest pour riches. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'esprit du métal. Et sinon, eh ben, il n'y a pas d'autre solution que de créer une file d'attente et du rationnement. Un peu comme quand on décide à un moment de dire qu'on va refuser que les prix augmentent, ben forcément, ça se traduit par de la frustration et du rationnement. Donc, en fait, finalement, tu vois, tu as tout à fait raison de ramener ça à notre série d'émissions.
Bah écoute, tu me vois ravi de cette fulgurance que j'ai eue de façon bien involontaire, ceci dit. Alors, la semaine dernière, Renaud, me semble-t-il, nous étions restés sur le problème suivant. Tu nous avais parlé de la courbe de Phillips, et l'interrogation qui planait en fin d'émission était de savoir si elle était toujours valide aujourd'hui. Alors, on va peut-être juste rappeler à nos auditeurs que nous étions en train d'étudier l'effet qu'avait l'inflation sur l'emploi, hein, et on avait tendance à dire que, d'après Phillips, l'inflation était à l'origine de création d'emplois, et qu'à l'inverse, eh bien, lorsque les prix diminuaient, il y avait plutôt augmentation du chômage, et ça déterminait donc la mise en œuvre de certaines politiques publiques, soit de relance, soit de rigueur.
Oui, juste un tout petit point de vocabulaire, parce que tu as raison sur le fond. Phillips ne dit pas que l'inflation permet de créer des emplois. En fait, l'inflation, c'est en quelque sorte le symptôme d'une situation qui va mener à la création d'emplois. C'est pas l'inflation en tant que telle qui crée de l'emploi. L'inflation, c'est un signal qui est envoyé aux entreprises pour leur dire, manifestement, comme les prix augmentent, c'est que la demande est supérieure à l'offre. Donc, une façon pour nous, en tout cas, le message qu'on reçoit, c'est que si on produisait plus, ben, on trouverait une demande pour pouvoir acheter nos produits. Donc, on a intérêt à produire plus et donc à créer de l'emploi. Mais on est d'accord. C'est-à-dire que pour Phillips, les périodes inflationnistes sont plutôt des périodes de faible chômage.
D'accord.
Donc, on a fini là-dessus, effectivement, en disant que ça avait fonctionné jusqu'aux années 70, parfaitement. Les 30 Glorieuses sont typiquement la grande période de l'histoire économique où on a à la fois de l'inflation et du plein emploi, comme quoi il n'y a pas d'antinomie entre les deux. C'est vrai qu'à partir des années 70, on ne retrouve plus ça. Et je ne sais plus si on avait employé le terme ou pas la semaine dernière. Mais dans les années 70, on a eu une concomitance qu'on n'avait encore jamais observée dans l'histoire économique, qui était d'avoir en même temps une production qui n'augmentait plus, donc une stagnation économique, et en même temps des prix qui augmentaient fortement. Est-ce que tu sais quel est le néologisme qu'on a employé pour parler de ça?
Alors absolument, je crois que c'est la stagflation.
Exactement. Et c'était exactement ce qu'on a connu à cette époque-là. Et en fait, on y est quasiment en ce moment, parce qu'on a une croissance très faible. Alors, c'est pas une stagnation, mais on va avoir une croissance cette année qui va sans doute avoisiner les 1-1,5%. Donc c'est quand même une croissance faible, enfin en tout cas historiquement parlant, et avec une inflation de 6%. Donc, dans ce cadre-là, bah, clairement, on n'est pas dans le cadre de la courbe de Phillips. Parce que, à la fois, on a de l'inflation et pas de croissance. Alors que, justement, ce que nous expliquait Phillips, c'est que si en période d'inflation, le chômage était faible, c'est parce qu'en fait, il y avait de la croissance. C'est parce que les entreprises étaient incitées à accroître leur production. Alors, la question, c'est pourquoi? Eh bien, la principale raison, c'est qu'aujourd'hui, une des grandes sources de l'inflation, c'est pas la demande qui est trop forte. Une des grandes sources de l'inflation, c'est que c'est une inflation par les coûts de production justement, par le coût des produits importés, par les problèmes climatiques, etc. Et donc, de ce fait, cette inflation, ce n'est pas un signal envoyé aux entreprises pour leur dire « vous avez intérêt à augmenter votre production ». Au contraire, cette inflation, c'est un signal envoyé aux entreprises pour dire « vous avez plutôt intérêt à augmenter vos prix et ça risque de se traduire par moins de ventes ».
Donc alors est-ce que, bon, pour prendre une expression qui a peut-être un côté un peu trop dramatique, mais on n'est pas typiquement dans une économie de guerre?
Eh bien, en quelque sorte, oui, parce que cette inflation, elle est la conséquence aussi de chocs climatiques et de problèmes de récolte. Et en fait, on retrouve les mêmes problèmes de pénurie qu'on peut connaître justement en temps de guerre. Donc finalement, on a à peu près les mêmes symptômes, on est bien d'accord. J'ai même entendu hier qu'on risquait bientôt d'avoir des problèmes sur le riz, parce que les aléas climatiques de l'été dernier ont fait que les récoltes de riz ont été beaucoup moins importantes que d'habitude au Pakistan et en Inde, et que donc on allait avoir un déficit d'exportation de riz, et donc ça allait sans doute se traduire par une augmentation forte du prix du riz.
Oui, c'est un petit peu comme sur les pois chiches il y a quelques semaines déjà. Donc en fait, tout ça provoque un effet majeur qui est la raréfaction des matières premières finalement.
Oui, et donc l'augmentation de leur prix, donc l'augmentation du coût à la fois pour les ménages et à la fois pour les entreprises qui utilisent ces matières premières. Et donc là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une courbe de Phillips.
On est plutôt dans l'hypothèse d'une offre insuffisante.
Oui, et justement la question qui se pose dans ce cadre-là, c'est que faire ? Finalement, qu'en déduire de cette situation? Bon, la question des aléas climatiques, on a du mal à imaginer qu'elle ne va pas aller en s'accroissant, en fait, dans les années à venir. Ces problèmes climatiques, si on en croit tous les climatologues les plus sérieux et les plus respectables, vont aller croissant. Donc, ces problèmes de pénurie de matières premières, de pénurie alimentaire, et donc d'accroissement des prix sur les produits correspondants, il faut sans doute se préparer au fait qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue à avoir les mêmes solutions qu'avant pour des problématiques qui, en fait, ne sont plus les mêmes? Ou est-ce que cette inflation, c'est pas aussi peut-être le moyen d'enfin prendre au sérieux ce dont on avait parlé dans la première émission, à savoir la question de nos nécessaires changements de mode de vie par rapport à cette urgence climatique qui est de plus en plus prégnante.
Alors, d'accord, Renaud, je comprends très bien tout ça, mais dans le même temps, on assiste néanmoins aujourd'hui à aussi une reprise de l'emploi et on a l'impression que le chômage diminue fortement. Est-ce que c'est lié à l'inflation ou est-ce que c'est juste une coïncidence ?
Non, la reprise de l'emploi là n'est pas en tant que telle liée à l'inflation puisque elle existait déjà avant que l'inflation ne revienne. En fait, on a retrouvé des taux de chômage comme on n'en avait pas vécu depuis plus de 30 ans, depuis à peu près la fin du premier quinquennat Macron, hein, c'est-à-dire à peu près 2019. Bon, il faut pas se voiler la face. Depuis 2007. Surtout 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy, on est entré dans une phase quand même de très grande flexibilisation du marché du travail, de très grande précarisation du marché du travail, à une fin. Et cette fin, justement, c'était de lutter contre le chômage, en mettant en avant que ce qui pourrait expliquer le chômage élevé que nous avions en France, c'était la trop grande rigidité du marché du travail, la la désincitation que créait le code du travail et tout un ensemble de règles existantes autour de la protection des travailleurs auprès des employeurs pour embaucher. Donc il y avait débat sur cette question, hein, à savoir est-ce que, oui ou non, flexibiliser permettrait de réduire le chômage. Manifestement, on est obligé d'admettre, qu'on soit d'accord ou pas avec cette idée, que l'objectif a été, enfin cet objectif, que je vais nuancer juste après quand même Eric, l'objectif il a été atteint, c'est-à-dire que oui, manifestement, ce que nous avaient montré les expériences anglo-saxonnes, plus libérales, et l'expérience allemande aussi, lorsqu'ils ont commencé à flexibiliser leur marché aussi, c'est que la flexibilisation, ça se traduit effectivement par plus de création d'emplois, et donc plus d'emplois. Bon, dans le même temps, ça se traduit aussi par plus de précarité, plus de travailleurs pauvres, et plus de gens exclus. Donc, ce sont les deux faces de la même pièce. Mais donc, pour répondre à ta question originelle, non, c'est pas l'inflation en tant que telle qui fait que le chômage baisse et qu'actuellement, on a un taux de chômage très faible aux alentours de 7%. Ce qui crée avant tout ça, c'est qu'on a totalement revu le fonctionnement du marché du travail, avec des aspects positifs et avec des aspects négatifs. Et juste pour finir là-dessus, j'entends parfois dire, et en l'occurrence c'est faux, donc je préfère le dire, j'entends parfois dire, oui mais si le chômage a baissé, c'est uniquement parce que on a travesti les chiffres, on a mis les chômeurs en formation, on a durci les conditions pour être considérés comme chômeurs. Alors c'est vrai, tout ça, mais il n'empêche que malgré tout, le taux d'emploi augmente. C'est-à-dire que il est déjà arrivé dans l'histoire, par exemple quand on avait mis en place des systèmes de pré-retraite, que le chômage baisse alors que l'emploi n'augmentait pas. C'est simplement que les gens qui étaient au chômage étaient mis en pré-retraite, mais l'emploi bougeait pas. Là aujourd'hui quand même, l'emploi augmente. Donc on ne peut pas dire que cette baisse du chômage, elle est uniquement liée au fait qu'on travestisse les chiffres.
Très bien. Alors donc, tu le disais juste avant, il faut donc changer nos modes de vie. Est-ce que ça va être de nature à changer la donne économiquement parlant ? C'est-à-dire, quelles conséquences le changement, le changement drastique, parce que là, évidemment, on parle d'un changement qui est bien supérieur à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Est-ce que, quelles conséquences positives ça peut avoir sur ce type d'économie et sur ce type de phénomène comme l'inflation ?
Alors, le terme va être trop fort, mais je te dirais presque que je me réjouis, enfin, d'entendre des responsables politiques nous dire que dans les services publics, on va limiter le chauffage à 19 degrés. Alors, moi qui suis très frileux et qui suis fonctionnaire, je vais pas en tirer un avantage très grand, puisque au contraire, je crains d'avoir froid. Mais tant mieux. Comment on fait pour éviter de pas dépasser de plus de 2 degrés le réchauffement au 21e siècle? Comment on fait, si ce n'est, enfin, en mettant en place des mesures relativement drastiques? Voilà. Donc, il n'y a pas 50 solutions. À un moment donné, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et c'est triste à dire, mais la baisse de la consommation, elle fera partie aussi de la solution au problème.
Sauf que là, en l'occurrence, la baisse de consommation, elle est liée à l'appauvrissement de l'offre, justement. Est-ce que, si on voit la fin de la guerre arriver, on ne va pas retrouver, justement, cette pratique antérieure qui consiste à consommer jusqu'à plus soif ? C'est très conjoncturel, alors, en fait, ce qui se passe.
Comme je le dis, c'est pas si certain que ça, parce que une partie de nos problèmes n'est pas liée uniquement à la guerre en Ukraine. Il y a aussi les problèmes du réchauffement climatique qui entraînent des problèmes de récolte dans tout un ensemble de domaines et qui vont aller croissant. Donc oui, il y a la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui joue. Mais il n'y a pas que ça. Et je trouve que peut-être que justement cette situation, ça peut être enfin l'occasion de se dire que certains problèmes doivent être pris à bras le corps et que même si une partie du problème est conjoncturelle, il n'empêche que fondamentalement, il faut quand même changer nos façons de faire. Et l'inflation, en réduisant notre pouvoir d'achat, participe aussi, qu'on le veuille ou non, à cette sobriété qu'on devrait retrouver. Alors évidemment, cela nous amène à la question des inégalités. Hein, je ne te le fais pas dire, Eric, parce que c'est bien beau d'être sobre, mais c'est plus facile d'être sobre quand on est riche que quand bien on sûr. Est pauvre. Et sache que cette question-là, ce que je te propose, c'est qu'on la traite longuement la semaine prochaine, dans l'émission, à mon avis, qui sera un peu la dernière sur cette série d'émissions sur l'inflation, et qui nous permettra de relier justement l'inflation, le réchauffement climatique et les inégalités, qui étaient finalement les trois thématiques qu'on avait abordées dans la première émission.
Alors, juste, puisqu'il nous reste quand même 2 minutes d'émission, Renaud, en quoi, pour reprendre la question que je te posais précédemment, en quoi est-ce qu'une sobriété dans nos modes de consommation va-t-il entraîner des effets positifs ?
Ça, c'est une très bonne question. Très sincèrement, moi, je n'ai aucune certitude sur la question, donc je vais un peu botter en touche dans la réponse. Certaines études laissent penser que en verdissant notre consommation, on pourrait créer plein d'emplois dans justement les nouveaux secteurs de l'écotourisme, de l'écodéveloppement, peut-être, je n'en sais rien. Moi, je te reprendrai bien Aurélien Barreau, qui est un physicien que j'apprécie énormément. Il le dit très bien, il dit, c'est vrai que quand nous, on est là à parler d'urgence climatique, on nous renvoie toujours à la figure, oui, mais et les réalités économiques. C'est vrai qu'il y a des réalités économiques. Mais qu'est-ce qu'elles sont, ces réalités économiques, par rapport à l'urgence écologique? Pas grand-chose. Pas grand-chose, surtout pour nous, dans les pays riches, qui sommes quand même les grands gagnants du système. Alors évidemment, on en reparlera la semaine prochaine. Mmh. Dans ces grands gagnants, il y a des perdants. Et effectivement, on peut pas, comme ça, dire, allez, c'est pas grave. Non. Bien évidemment, il faudra prendre en compte le fait que si jamais on a une économie plus sobre, il va y avoir des conséquences, et en particulier pour les plus précaires et les moins qualifiés d'entre nous. Donc forcément, il va falloir mettre en place des mesures spécifiques de redistribution, de partage. Et ça va être l'objet justement peut-être de l'émission que nous allons faire la semaine prochaine.
Est-ce que ça pourra répondre à la question annexe à tout ça ? Est-ce que la décroissance est un modèle économique viable ?
Voilà, on pourra dire que ça peut être un peu le fil directeur de notre émission de la semaine prochaine.
Eh ben, très bien. Alors le rendez-vous est pris et on va saluer nos auditeurs. Et Renaud, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Eric. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.